Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise, autrement dit le chef. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône. Votre réaction bien sûr à la nomination de Gabriel Attal, Premier ministre. Est-ce que le succès de Gabriel Attal, c'est pas au fond tout ce que vous avez raté, tout ce à côté de quoi vous êtes passé? L'autorité, l'interdiction de la baïa, tout ce contre quoi vous vous êtes opposé et qui a plu aux Français.
Non mais attendez, d'abord le succès de Gabriel Attal, on parle je crois de son bilan au ministère de l'Éducation nationale, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la France est championne d'Europe des classes surchargées, qui fait qu'aujourd'hui en France les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE. On parle du fait qu'à la rentrée 2023, une classe sur deux n'avait pas d'enseignants qui n'ont pas pu être remplacés. Si ça, vous appelez ça un succès, moi j'ai plutôt l'impression qu'en Macronie, en quelque sorte, on promeut
vous l'avez pas vu
les ministres qui ont le plus mauvais bilan.
Vous l'avez pas vu, cette fusée Attal décoller, l'opinion publique qui, sondage après sondage, on a fait le personnage politique préféré des Français.
Je pense que Gabriel Attal fait essentiellement de la communication. Et je crois que les Françaises et les Français, ils attendent d'avoir des dirigeants qui changent leur vie, qui font en sorte que la situation soit moins difficile. En l'occurrence, par exemple, dans l'éducation nationale, qui fasse en sorte que nos élèves aient des professeurs devant eux quand ils vont à l'école, que nos élèves aient des fournitures scolaires pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Et sur ces sujets-là, je crois effectivement que le bilan de Gabriel Attal n'est pas un bon bilan,
tout
simplement.
On va revenir sur le bilan, et d'ailleurs on entend les différents syndicats qui d'abord reprochent à Gabriel Attal de quitter l'éducation nationale. Donc, au fond, est-ce que ça laisse pas entendre qu'ils étaient plutôt contents qu'ils soient à l'éducation nationale? Ils veulent pas qu'ils partent.
Vous croyez? Moi, écoutez, j'ai lu les réactions des organisations syndicales d'enseignants après le départ de Monsieur Attal. Ils lui reprochent effectivement de partir. Ils lui reprochent aussi l'absence de politique pour répondre aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Vous le savez peut-être pas, mais par exemple, lundi, il y a eu un vote à ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation, c'est une instance dans laquelle il y a justement les représentants du personnel, les représentants des enseignants. Ils ont donné un avis sur la réforme du lycée professionnel. Il y a eu 0 voix pour, 50 voix contre, à peu près 20 abstentions. Ça, c'est concret, vous voyez, c'est pas de la communication. Donc, je vois bien le récit qu'on essaye d'installer de Gabriel Attal, qui aurait été un ministre extraordinaire de l'éducation nationale.
Sur
je
un
crois
récit,
que la réalité est
tout
inverse.
Ce que disent notamment les syndicats de profs, et puis j'écoute aussi.
Les syndicats de profs, ils disent pas qu'ils sont très contents du bilan de Gabriel Attal.
Non, mais
à l'éducation nationale.
Je vous ai dit exactement ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'ils lui reprochent pour l'instant de partir. Mais c'est vrai que quand on reproche à quelqu'un de partir, c'est qu'on a envie qu'il reste. Manuel Bompard, l'interdiction de la baïa, qui a été une des mesures emblématiques de Gabriel Attal, l'autorité, faire de l'autorité, du retour de l'autorité, la sélection, le fait de remettre des examens, tout ça c'est exactement ce sur quoi vous vous êtes opposé, on est bien d'accord?
Bien sûr, mais je continue à m'y opposer. D'ailleurs, je pense que, par exemple, l'interdiction de l'abaya a été une formidable opération de diversion pour faire en sorte qu'on ne regarde pas précisément quelles étaient les difficultés de la rentrée scolaire. Et les difficultés de la rentrée scolaire sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas d'enseignants pour éduquer nos enfants, c'est-à-dire le fait que nos enfants avaient du mal à pouvoir disposer des livres, des fournitures qui leur permettent d'étudier dans des bonnes conditions. Et je pense que Monsieur Attal est un spécialiste des gadgets de communication. Mais ce ne sont pas les vrais problèmes auxquels est confronté aujourd'hui l'enseignement.
Vous remettriez la baïa?
Mais c'est pas moi qui décide de mettre ou de ne pas mettre la baïa.
Si vous êtes au pouvoir,
non, c'est les
ça
gens
fait
qui,
partie
qui,
des
qui...
décisions. Est-ce que vous réautoriseriez?
Je pense que cette mesure était une mesure inutile, qui était une mesure de diversion,
non,
qui concernait
de la
une toute
de la
petite
et de
poignée.
La com.
Non, mais c'est pas au-delà,
fond,
c'est quand même le sujet principal.
Sur le fond, vous, LFI.
Mais moi, j'étais opposé à son interdiction, Apolline de Malherbe. Je suis cohérent. Donc, à partir du moment où j'étais opposé à son interdiction,
vous réautoriseriez officiellement le port de la baïa à l'école.
Bien sûr, je pense que c'était une mesure stigmatisante, totalement inutile. D'ailleurs, on nous avait annoncé des grandes difficultés. Il n'y en a eu aucune, qui était bien la preuve que les jeunes femmes qui mettaient cette tenue n'étaient pas du tout dans une logique d'affrontement. À partir du moment où la loi a été changée, elles l'ont respectée et je pense qu'elles l'ont mal vécue. Donc je pense que
mais
c'était...
vous reviendriez en arrière.
Mais oui,
en tout
parce
cas,
que
si
je pense
arrivez...
que c'était une stigmatisation totalement inutile. Bref, vous êtes en train d'essayer de me faire croire que le bilan de Gabriel Attal à l'éducation nationale était formidable. Je pense que c'est un bilan calamiteux. Et je pense que le président de la République le promeuve en dit long sur la manière avec laquelle on progresse en Macronie, c'est-à-dire quand on fait une mauvaise politique.
Alors écoutons ce qu'il a dit hier lors de son arrivée à Matignon. Il a parlé notamment du rapport au travail. Travailler doit toujours payer plus que ne pas travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, j'imagine, par exemple, qu'il va faire en sorte de s'attaquer au fait que cette année, on a connu un record historique de versement des dividendes aux actionnaires. Les dividendes, ce ne sont pas des revenus du travail. Alors que dans le même temps, les salaires, depuis 2 ans, ont progressé plus faiblement que les prix. C'est-à-dire que très concrètement, les Françaises et les Français ont vu leur salaire diminuer. Donc là aussi, moi, je veux aller au-delà des mots, des grandes phrases. Que Monsieur Attal, s'il veut aller au bout de cette logique, nous dise ce qu'il compte faire pour faire en sorte que les salaires des Françaises et des Français progressent enfin. Est-ce qu'il est prêt à augmenter le SMIC ? Est-ce qu'il est prêt, comme on l'a proposé dans notre niche parlementaire au mois de novembre dernier, à indexer les salaires sur l'inflation pour faire en sorte que, quand les prix augmentent, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français
les
ne diminue pas ?
Les différents économistes, c'est d'ailleurs qu'en 2024, les salaires vont augmenter encore plus que l'inflation. Donc si on est sur votre loi, ça va presque tirer les salaires vers le bas.
Non, parce que c'est un minimum, Apolline de Malherbe. D'accord. On n'empêche bien évidemment pas.
Non, parce que là, ça se fait tout seul.
Non, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas vrai. Depuis 2 ans, si vous prenez l'augmentation des salaires par rapport à l'augmentation des prix, les prix ont augmenté davantage
depuis
que les salaires.
Non, mais ça, on est bien d'accord.
Bon,
depuis 2 ans.
Après, moi, les pronostics, on verra. Hein. Monsieur Le Maire, il nous a annoncé depuis 1 an et demi qu'on était au pic de l'inflation. Hein, depuis 1 an et demi, il nous dit, ça y est, c'est fini. Depuis 1 an et demi, les prix continuent à augmenter et à progresser. Donc, je vois que Monsieur Attal nous a fait une belle formule sur le travail qu'il doit payer, mais aujourd'hui, le travail ne paye pas. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Il faut faire en sorte que leur salaire augmente. Il faut faire en sorte qu'on bloque les prix. On va avoir, il fait froid en ce moment, on va avoir au 1er février de cette année encore 10% d'augmentation sur le prix de l'électricité. Il y a déjà eu 25% d'augmentation du prix de l'électricité l'année dernière. Est-ce que Monsieur Attal va s'engager à bloquer les prix de l'électricité pour faire en sorte que les Français ne soient pas encore plus en difficulté pour pouvoir se chauffer, par exemple ? Ça, c'est des sujets concrets sur lesquels moi j'attends maintenant que Monsieur Attal nous présente une feuille de route, qu'il vienne devant l'Assemblée nationale, qu'il présente cette feuille de route et qu'il se soumette, comme on le fait dans toutes les démocraties du monde,
à votre motion de défiance.
Non, à un vote de confiance.
Vous avez quand même tout de suite dit, s'il demande un vote de confiance, on déposera une motion de défiance.
Non, vous avez mal compris ce que nous disons.
Ah, alors expliquez-nous, parce que c'est ce que j'ai compris hier des propos de Mathilde Panot.
Nous demandons à ce que, comme dans toutes les démocraties du monde, dans toutes les démocraties parlementaires du monde, un Premier ministre, quand il vient d'être nommé, il se présente devant l'Assemblée nationale. Il présente sa feuille de route et il se soumet à un vote de confiance. Voilà ce que nous demandons. Et nous disons que si M. Attal refuse de se soumettre à un vote de confiance, nous le forcerons, entre guillemets, à se soumettre à un vote de confiance par le dépôt d'une motion de censure. Mais moi, je préfère qu'il se soumette à un vote de confiance et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de motion de censure.
Mais elle se fera naturellement.
Je ne sais pas pourquoi ne se soumettrait-il pas à un vote de confiance.
Enfin, écoutez, parce qu'il se dit qu'il n'a pas la majorité.
Il y a quand même quelque chose de formidable dans cette histoire. Monsieur Macron a licencié Madame Borne. Je crois que tout le monde a lu le courrier de départ de Madame Borne. Tout le monde a compris que c'est lui qui l'avait licenciée. Dans une équipe de football, Madame Apolline de Malherbe, quand on licencie l'entraîneur, c'est que les résultats ne sont pas bons. Donc, qu'est-ce que Monsieur Macron reproche à Madame Borne et qu'est-ce qu'il a l'intention de demander à Monsieur Attal de changer ? Ça serait quand même normal qu'on le sache.
La logique pour vous aurait été vers la dissolution.
Non, la logique, c'est que à partir du moment où il y a un nouveau Premier ministre, il nous présente sa feuille de route et il nous dit sur la base de quelle majorité il compte gouverner le pays. Et que s'il n'est pas capable de réunir une majorité, effectivement, on retourne au vote devant les électrices et les électeurs pour qu'il puisse y avoir une majorité. S'il n'y a pas de majorité, on va avoir exactement la même chose que ce qu'on a depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la multiplication des 49-3 à répétition, c'est-à-dire des tractations de couloirs comme on l'a connu tout au long de l'année 2023 pour essayer d'arracher une majorité sur tel ou tel texte de loi.
J'ai quand même l'impression que tout ça est très théorique. On sait que dans les faits, il n'y a pas de majorité.
Je ne sais pas.
Vous le savez.
Mais non, mais parce que Apolline de Malherbe, vous partez du principe.
Non, mais vous savez compter.
Je sais compter. Je sais que ce qui constitue aujourd'hui la minorité gouvernementale est effectivement minoritaire.
Voyez, vous-même vous dites.
Mais bien sûr.
Vous dites, je ne sais pas, mais enfin, vous l'appelez la minorité.
Attendez. Allons au bout du raisonnement. À partir du moment où vous avez un Premier ministre, sa responsabilité, c'est d'aller chercher une majorité pour soutenir sa politique. Mais à partir du moment où il ne veut rien changer, il ne veut rien bouger, il considère que tout le monde doit s'aligner sur ses ses positions. Alors oui, effectivement, il ne peut pas convaincre de majorité, mais il pourrait avoir une autre démarche, essayer de chercher une majorité pour faire en sorte que sa politique soit soutenue par une majorité de députés et pour qu'elle puisse être mise en œuvre.
Bah alors allons jusqu'au bout. Il vient vous voir, il vous dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait gouverner ensemble? Vous dites pourquoi pas?
Mais je lui dis, qu'est-ce que vous êtes prêt à changer par rapport à ce que vous faites depuis un an et demi, depuis sept ans bientôt, et si vous voulez mettre en place la même politique, bien sûr que non, puisque je la conteste et que je la combats. Mais si Monsieur Attal, il ne le fera pas, vient me voir et me dit, je suis prêt à bloquer les prix sur les produits de première nécessité, je suis prêt à augmenter les salaires, je suis prêt à mettre en place enfin une vraie planification écologique, je suis prêt à passer à une sixième république, bah alors discutons. Mais vous savez très bien qu'il ne le fera pas, puisque tout ce qu'il fait depuis maintenant sept ans, c'est précisément l'inverse que ce que
sur
je viens de proposer.
Sur cette question des salaires, effectivement, il a dit qu'il fallait une plus grande différence entre ce qui travaillent et qui vivent de leur travail, et il a laissé entendre, ça veut dire qu'il faut aussi moins aider les autres en quelque sorte. Il l'avait dit d'ailleurs quand il était ministre du budget, il avait dit les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour aider ceux qui ne bossent pas. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour les autres, c'est cette France-là qui est notre priorité.
Mais attendez, qui sont les privilégiés dans ce pays? Faut arrêter avec cette logique. Vous croyez qu'une personne qui aujourd'hui vit au RSA, une personne qui cherche un travail mais qui n'en trouve pas et qui touche des allocations au chômage, vous croyez que c'est une personne privilégiée? Vous croyez qu'elle vit bien? Vous croyez que quand les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 20%, les prix de l'énergie de 25%, vous croyez que les gens ils vivent bien quand ils n'ont pas de travail aujourd'hui?
Non, attendez. Les manifestations, il avait dit,
voilà qui sont les vrais privilégiés.
Il s'était adressé à vous, à l'Assemblée, il avait dit, quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo?
Plein de fois, au moment du Front populaire, quand on a augmenté l'augmentation des salaires. Heureusement qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour faire en sorte que la vie augmente. Quand on a obtenu la mise en place de la sécurité sociale, heureusement qu'il y a eu des mobilisations sociales dans ce pays. Et Monsieur Attal, qui soi-disant est censé venir de la gauche, devrait se rappeler que l'histoire de la gauche, c'est justement l'histoire de mobilisation sociale, l'histoire de conquis sociaux qu'on a arrachés, pas uniquement par le pouvoir politique, mais aussi par la pression sociale.
Il
a aussi manifesté il y a quelques années quand des postiers étaient en grève pour défendre leur travail. Il a manifesté contre les postiers qui étaient en grève pour dénoncer les gréviculteurs à l'époque. Hein, gréviculteur qui est un terme qui a été inventé par Jean-Marie Le Pen. Je voudrais quand même le rappeler
pour vous,
ici.
Mais attendez,
Apolline de Malherbe.
Pour moi,
je vous le dis franchement, il ne l'a jamais été de mon point de vue.
Quand il était militant du Parti Socialiste.
Oui, mais malheureusement, le Parti Socialiste a enfanté un certain nombre d'horreurs, comme sans doute Gabriel Attal et M. Macron lui-même
en
fait partie d'un point de vue politique. Oui, bien sûr. Attendez, Apolline de Malherbe.
C'est un mot très fort quand même. Oui, c'est fort. Vous diriez une horreur.
Du point de vue de la continuité ou de
vous,
du fait qu'il
ça
porte
ça vous a un peu échappé, vous êtes pas très content d'avoir
non, attendez Apolline de Malherbe, j'utilise
vous
les
pas
mots
dit.
Qui sont les miens,
il y a
aucun problème, je
c'est
considère
horreur,
que la politique qui est mise en place par monsieur Macron et par monsieur Attal est effectivement une horreur. Maintenant, je vais vous dire, on était en train de dire qui sont les vrais privilégiés. Eh ben, je conteste fermement l'idée qu'on essaye de faire passer dans ce pays qu'il y aurait finalement des gens qui profiteraient des situations quand ils sont au RSA ou quand
c'est moi, hein, voilà, la France
chômage.
Laborieuse qui a l'impression de bosser pour les autres.
Ouais, mais moi, je pense effectivement qu'une grande partie de la France bosse pour les autres, mais on parle pas des mêmes autres. Moi, je vous parle des actionnaires du CAC 40 qui ont reçu cette année un record de dividendes, alors que de l'autre côté de la chaîne, les Françaises et les Français tirent la langue. Il y a effectivement une grande partie de la population qui en a assez de bosser pour une toute petite minorité de la population qui s'en met plein les poches alors qu'elle ne fait rien et qu'elle ne contribue en réalité pas à la vitalité économique du pays. Donc je vois bien la nouvelle politique macroniste qui est en permanence d'essayer de pointer du doigt les pauvres comme étant les responsables de tous les maux. Eh ben, excusez-moi de vous le dire, mais vous me trouverez toujours contre ceux qui vont continuer à tenir ce type de discours. Et si Monsieur Attal veut faire quelque chose de bien pour le pays, plutôt que d'aller stigmatiser une partie de la population qui a des très lourdes difficultés aujourd'hui, qu'il pose la question de comment on va enfin partager les richesses dans ce pays, comment on va faire en sorte que les super profits qui ont été accumulés depuis maintenant deux ans soient enfin taxés tels qu'ils devraient l'être depuis maintenant plusieurs semaines, de faire en sorte qu'on bloque et qu'on encadre les marges, notamment les marges dans la grande distribution, les marges dans l'industrie agroalimentaire qui sont responsables de l'inflation aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà s'il veut être courageux. Parce que c'est pas courageux de s'attaquer aux faibles. Ce qui est courageux, c'est de s'attaquer effectivement aux forts qui profitent de la situation.
Manuel Bompard, voilà la réaction de Jean-Luc Mélenchon hier. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Vous vous attaquez à son âge ?
Non, pas du tout.
Il est trop jeune ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Enfin, moi, je le comprends.
Attendez,
pas.
Ça.
Malheur au peuple dont les princes sont
mais
des
mais
enfants.
Souvent, ça arrive, Pauline de Malherbe, que vous compreniez pas toujours très très bien nos expressions.
Parce que vous les
mais heureusement,
pas très bien,
mais heureusement, je suis là pour vous. Heureusement, je suis là pour vous éclairer.
Heureusement qu'on a l'explication de texte,
voilà.
Et la traduction. Alors, ça veut dire
écoutez,
quoi ? Malheur au peuple dont les
sujet,
princes sont des enfants.
Le sujet, je ne crois pas que le sujet ce soit l'âge du capitaine, en l'occurrence. Hein.
Ah bah,
le sujet, c'est le cap. Maintenant, la question qui est posée, c'est qu'effectivement,
attendez,
je pense effectivement que le parcours de Gabriel Attal, est un parcours assez singulier. On peut pas dire qu'il a connu, on peut pas dire qu'il a beaucoup travaillé. On peut pas dire qu'il a beaucoup été confronté aux difficultés des Françaises et des Français. Et donc, il est pas forcément très bien placé pour gouverner ce pays et pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. Moi, j'ai 37 ans.
À partir de quand vous avez estimé que vous étiez capable ?
Ouais, mais écoutez, moi, j'ai 37 ans, j'ai fait des études, j'ai travaillé j'ai fait un doctorat, j'ai fait un post-doctorat, j'ai travaillé dans une petite entreprise qui travaillait sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai plus que monsieur Attal qui est quand même peu sorti des 6e et 7e arrondissements de Paris, été confronté aux difficultés auxquelles sont confrontés les Françaises et les Français. On a quand même le droit de dire que le parcours singulier de Gabriel Attal est ppas le parcours de n'importe quelle Française et de n'importe quel Français. Je ne crois pas que ça soit une attaque personnelle à son égard de dire ça.
Oui, sauf que là, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, il parle de l'âge. Il estime que c'est un enfant.
Bah non, je ne crois pas. Je crois qu'il parle justement de son expérience, des éléments de la vie auxquels il a été confronté.
C'est souvent compliqué de comprendre ce qu'il veut dire.
Parce que souvent,
Mélenchon.
Vous ne voulez pas toujours bien comprendre.
Bah moi, je
ne
sais pas. Le mot enfant, je le comprends comme le mot enfant.
Ah,
enfin,
je ne savais
pas qu'en fait, enfant, ça ne voulait pas dire enfant.
Bah, peut-être qu'enfant, ça veut dire enfant, mais peut-être qu'enfant, ça veut dire du point de vue des éléments de la vie auxquels on a été confronté. Mais après, si vous voulez poser des questions à Jean-Luc Mélenchon, le mieux c'est de les poser à lui.
Il est absolument le bienvenu, mais semble-t-il, il n'aime pas se lever le matin.
Vous l'inviterez.
C'est en tout cas comme ça qu'il me répond.
Il aura l'occasion d'expliquer ce qu'il voulait dire.
Mais n'hésitez pas à lui dire que ça vaut la peine de temps en temps de mettre son réveil.
Je lui dirai, il n'y a pas de problème. Mais en l'occurrence, il me semble que mon point de vue et la caractérisation que je fais de Gabriel Attal et de la politique qu'il envisage de mener est politique et certainement pas personnel. Moi, j'ai jamais l'habitude de mélanger la politique et le personnel. Je n'ai pas de problème personnel avec monsieur Attal. Par contre, je conteste sa politique et je conteste les choix qu'il a fait pour l'instant et les choix qu'il manifestement s'apprête à faire.
Qu'est-ce que vous retiendrez d'Elisabeth Borne ?
Des 49-3, une réforme des retraites passée en force. Malgré l'opposition de à peu près 9 actifs sur 10. Je pense que Madame Borne a fait beaucoup de mal au pays et la fin de son mandat est aussi dramatique que l'ensemble des actions qu'elle a posées avec cette loi immigration qui est une honte, qui a défiguré la France et que Madame Borne a pris elle-même les rênes dans la dernière ligne droite des négociations pour avaler toutes les couleuvres et céder à l'ensemble des injonctions de l'extrême droite. Et je pense que de ce point de vue-là, elle portera une très lourde responsabilité qui, il faut le comprendre, fait beaucoup de mal à la France. Vous savez, quand vous vous déplacez un petit peu en dehors de notre pays aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Et ont le sentiment que la France est en déclin, qu'elle se replie sur elle-même, que maintenant on s'attaque aux étudiants étrangers en France, alors que ça devrait être une fierté de faire en sorte que la France accueille des étudiants étrangers, qu'on partage notre savoir, que la France soit attractive. Je pense que Madame Borne, en relayant et en mettant en place la politique de Monsieur Macron, fait beaucoup de mal à notre pays. Et que le choix qui nous est posé aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue dans ce déclin de la France ou est-ce qu'on offre une alternative? Et moi, avec la France Insoumise, j'essaye de proposer un autre chemin pour faire en sorte qu'on vive mieux dans ce pays, pour qu'on fasse en sorte qu'on résolve enfin les problèmes de nos services publics.
Mais sur cette loi immigration, est-ce que vous aussi, vous serez dans la rue le 21 janvier pour... Il y a cet appel à la mobilisation de 201 personnalités.
Bah écoutez, moi je manifesterai déjà dimanche parce qu'il y a une première date de manifestation, c'est ce dimanche le 14 janvier contre cette loi immigration pour exiger son abandon.
Vous n'avez pas pu vous mettre d'accord.
Ben c'est pas moi. Hein. Moi, je soutiens les deux appels à manifester. Je vais vous dire franchement, j'aurais préféré qu'il y en ait qu'une. Mais ouais. Il y en a deux en l'occurrence.
Mais pourquoi vous prononcez pas celle du 14 pour celle du 21?
Parce qu'il y a des gens qui manifestent le 14, il y en a qui manifestent le 21, et moi, je suis d'accord avec tout le monde, donc je vais manifester
donc
avec les deux.
Donc vous manifesterez les deux dimanches.
Ben voilà. Bon. Mais si c'était moi qui décidais, je vous promets, il y aurait eu une seule date de mobilisation.
Mais le 21, il y a notamment les organisations syndicales.
Bien sûr. Donc c'est une date importante, le 21 janvier. Moi je manifeste, j'appelle les Françaises et les Français à manifester. Je crois que tout le monde doit comprendre que, contrairement à la communication qui a été faite sur le sujet, cette loi sur l'immigration, en l'occurrence, elle ne va résoudre aucun problème des Françaises et des Français. En quoi un Français aujourd'hui va voir sa vie améliorée parce qu'on va rendre la vie plus difficile pour un travailleur étranger? Et je voudrais que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. Si l'ensemble des travailleurs qui travaillent en France et qui sont de nationalité étrangère décidaient d'arrêter le travail pendant une journée où les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler, le pays pourrait pas tenir. Parce qu'on a besoin de ces travailleurs étrangers que vous connaissez comme moi, quand vous vous levez le matin très tôt, que vous allez dans le RER, que vous allez dans le métro, vous les voyez, c'est eux qui occupent les fonctions qui sont les fonctions essentielles à la vie de la nation aujourd'hui. Et donc, les pointer du doigt, les stigmatiser comme le fait le gouvernement, je trouve ça odieux.
Qui va diriger votre liste LFI? C'est Manon Aubry?
Manon Aubry, c'est aujourd'hui notre chef de file. On a une convention sur les élections européennes de lancement officiel de notre campagne qui aura lieu au milieu du mois de mars. Je le souhaite toujours. Je vais vous dire franchement, je pense que le vote de la loi immigration devrait sonner comme un élément qui déclenche un sursaut à gauche. J'ai proposé immédiatement à l'ensemble des composantes de la NUPES de se réunir. Si on veut être en capacité de proposer une alternative face à la Macronie qui est en train de se dérober, et face à l'extrême droite qui apparaît comme une alternative possible, il faut proposer un autre chemin. Et je pense que la NUPES devrait être en capacité de proposer cet autre chemin. Ben, ils ne m'ont pas répondu, tout simplement. Je leur ai proposé qu'on se rencontre, qu'on se réunisse. Donc je profite du micro ici pour leur relancer l'appel, pour leur dire franchement.
On est plus efficace que les textos et les appels.
Je leur dis franchement, ce serait irresponsable que dans cette situation-là, face à de tels dangers, à une telle gravité, ce serait irresponsable que la NUPES ne soit pas en capacité d'avoir une liste commune aux élections européennes. Il faut le faire. Franchement, on est dans une situation terrible. Hein ? Hier, une femme est morte à cause du froid. Je voudrais juste en dire un mot et après j'ai compris qu'il fallait s'arrêter. Que fait le gouvernement sur ce sujet? Ok, le théâtre, la comédie du remaniement, à un moment, il y a des difficultés en face de ça. Et ces difficultés, c'est notamment le froid. 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Je demande un plan d'urgence pour qu'il y ait zéro SDF, la réquisition des logements vides, enfin des nouvelles places d'hébergement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de gens qui meurent face au froid.
Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise,
merci
d'avoir répondu à mes questions ce matin. 8h54 sur RMC BFM TV.